102.1.
L'émission Nangeas, son émission du midi sur Boulevard, 102.1, précisément 13h38 minutes, moins 15 à la météo. Refroidissement éolien de moins 25. Oh, il fait froid. Moins 12 demain, moins 5 et moins 4 pour mercredi, jeudi, avec des possibilités de neige. Donc, préparez-vous, on va en pelleter une autre petite shot, mais c'est toujours mieux à moins 4 qu'à moins 25. Donc, félicitations à Geneviève qui remporte justement le panier cadeau chez Fromagerie Victoria avec son ingrédient pour son pâté à viande que... Je ne dirai pas Geneviève parce que tu nous as dit « Chut, c'est un secret! » Faut garder le secret pour Geneviève. T'es d'accord avec ça, Pascal?
Moi, je l'aurais dit. Je l'aurais dit parce que je trouve que c'est un partage intéressant. Moi, j'ai pris une note là-dessus. Je veux tenter d'en mettre de la mélasse dans mon prochain pâté à viande.
Ouais, c'est vrai que c'est bon de la mélasse. T'as raison. Excellent, good! Ouais, on l'a pas dit. On a juste dit que la mélasse était bon. Mélasse, mélasse. OK. Ce sont les foleries parce qu'on va parler sérieusement et sérieusement de ce conflit qui ne finit plus de se terminer entre la Russie et l'Ukraine. Et c'est à croire que la Russie fait exprès pas que ça se termine parce qu'on n'arrête pas de gagner du terrain en attendant que les négociations, et là je le mets en très gros guillemets, de paix parce qu'on s'entend que la Russie va frapper l'Ukraine. Là, je suis convaincu de ça après quelques années. Et là, ben, ça grouille beaucoup dans le monde européen parce que un allié fidèle de longue date, les États-Unis, ont tendance à pencher plus pour des régimes comme la Russie et la Chine à l'heure actuelle.
Étrangement, tu sais, en guerre froide, on n'aurait jamais pensé que les États-Unis allaient s'allier de cette manière-là avec les Russes. On parle d'alliance parce qu'on parle aussi de discussions économiques très fortes et façon aussi d'appuyer la Russie dans cette trêve-là ou cette paix-là, qui n'en est pas nécessairement une, parce que plusieurs experts depuis plusieurs semaines le disent, si on laisse Vladimir Poutine sans responsabilité de ce qu'il a fait en février 2022, soit d'envahir l'Ukraine avec ses troupes, bien, ça va lui donner le pouvoir de peut-être refaire ces choses-là puis continuer sa genre de vengeance. Hein, parce que lui, là, il n'a jamais pris le fait d'avoir perdu du territoire. Il n'a jamais pris aussi la défaite mondiale qui lui a été lancée sur les épaules.
Objectif URSS, c'est aussi clair que ça.
Aussi clair que ça. Pour lui, c'est d'aller rétablir la fierté de son peuple et de son pays. Après les critiques de Trump, il y a eu des Européens qui ont affiché leur solidarité envers Zelensky, Volodymyr Zelensky, qui est à la tête de l'Ukraine. Et là, tu vois vraiment une dissociation, du moins une découpe mondiale qui est très importante dans le conflit que l'on connaît. Pourquoi? Parce que bien, c'est une division aussi en termes d'idéologie. Les États-Unis, on voit dans la politique de Donald Trump que sa priorité, c'est l'économie. Ce n'est qu'économique. Alors, comment est-ce qu'on va réussir à aller faire en sorte qu'on reste une puissance mondiale économique, sinon la puissance mondiale économique, et qu'on se remplisse les poches en tant
Exactement.
Que pays.
Exactement. C'est transactionnel la façon que Donald Trump fait ses affaires. Puis on n'a qu'à regarder avec des pays, exemple, comme l'Arabie saoudite, qui sont contre le droit des femmes. Ben lui, s'en va s'asseoir avec eux, fait des transactions de pétrole, et ça ne lui dérange pas. Il n'y a pas cette conscience-là, ces valeurs-là, qui prime au-delà, justement, de comment je peux faire de l'argent.
C'est pas une politique d'éthique et de morale. Assurément, c'est ce qu'on commence à constater. Et ça va amener des problématiques parce que à qui tu veux donner du droit mondial? Je dis ça dans la responsabilité de chacun des pays. Est-ce que nous, en tant qu'Occidentaux, on peut commencer à s'asseoir en disant « Nous avons les meilleures valeurs morales et éthiques. » On peut en être convaincu, mais est-ce que c'est à nous de prendre un peu le contrôle du monde?
Exactement.
C'est ce qui a souvent été entre nos mains en tant qu'occidentaux, en tant que valeurs démocratiques et tout ça.
En tant que pays de l'OTAN, justement, des pays démocratiques. Et puis pour ceux qui disent, ouais, mais hey, Donald Trump, là, il fait, bon, il gère sa fougère, son territoire, puis tout le kit. Non, parce que ça, Pascal, si je ne me trompe pas, ça va laisser de la place à la Russie, ça va laisser de la place à la Chine. Ça laisse de la place à des régimes communistes de prendre de plus en plus de place sur le globe. On n'a qu'à penser en Afrique et d'avoir une influence encore plus forte sur l'économie mondiale.
Juste dans tout ce qu'on a parlé, ça pourrait me faire 75 chroniques. Tu sais que je suis un peu passionnée de ça parce que j'essaie de voir les coups venir. Puis l'Europe est très penchée sur l'actualité internationale, ce que nous, on ne fait pas. Peut-être parce que, justement, ils ont beaucoup plus à surveiller sur un territoire commun et partagé, si tu prends l'Europe en tant que telle. Mais depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y avait quand même eu un genre de devoir moral et éthique qui avait eu priorité sur ce genre de non-démocratie-là de la Russie, de la Chine, et puis ce qu'on a vu, ce qui s'est passé en Allemagne. en ce moment du côté de l'Europe. On jase énormément, on se pratique et on se prépare activement à d'éventuels conflits qu'on n'a pas vus dans certains pays depuis des années. Même que c'est la tension qui existe et qui coexiste avec la Russie qui fait augmenter un genre de rumeur comme quoi plusieurs dirigeants, dont le ministre allemand de la Défense, qui appellent à être prêts pour la guerre et on met une date en 2029. Après.
OK. Pourquoi 2029?
Pour le temps que ça va prendre dans l'opinion publique, le temps que ça va prendre à se préparer, puis certainement, le fait que tout le monde est un peu sur le qui-vive, certains ont de l'arme nucléaire, d'autres non. Il y a aussi beaucoup d'économies là-dedans. Mm-hmm. Tu l'as vu au moment où la Russie a envahi l'Ukraine, il y a eu même des coupes au niveau alimentaire. Dans la farine, dans le blé, il a fallu se réapprovisionner ailleurs, même diversifier notre agriculture. Écoute, en France, on avait de la misère à faire nos croissants. Il a fallu revoir où est-ce qu'on va s'approvisionner en termes de culture. Puis, quand on parle de croissance, ça peut sembler stupide, mais c'est quand même une des matières premières de l'économie française. Chose certaine, la menace russe est perçue. On est convaincu qu'il y en a une et en plus, on n'a pas de sanctions par rapport à ce qu'ils ont fait il y a quelques années et tous les impacts majeurs qu'ils ont eus. On croyait que l'armée russe allait être plus forte que ce qu'ils nous ont démontré sur le terrain.
En effet.
Le fait qu'on a eu des drones ukrainiens qui ont été capables d'aller directement dans Moscou nous a évoqué à quel point on n'était pas nécessairement prêt. Cependant, ils possèdent l'arme nucléaire. Ils surfent beaucoup là-dessus, peut-être trop.
Ouais.
Si on avait à se réajuster et on avait le ministre de la Défense russe devant nous, c'est sûr que ce serait dans les discussions.
Exactement. Et d'ailleurs, la France a l'arme nucléaire et veut en produire davantage justement pour se protéger d'une éventuelle attaque russe.
Énormément de pays souhaitent maintenant se tourner vers l'arme nucléaire, pas pour l'utiliser, mais pour avoir un droit de discussion en se disant « Parfait, vous n'avez pas maintenant la force de Dieu, tiens, disons-le comme ça, qui est l'arme nucléaire. Nous aussi, on l'a, donc maintenant, vous allez vous asseoir puis on va parler d'égal à égal. Il n'y aura pas cette menace nucléaire-là sur notre tête parce que nous aussi, on va l'avoir prochainement. » La capacité de défense, beaucoup d'Européens, 69 % d'entre eux, selon un sondage fin 2025, maintenant, estiment que leur pays n'est pas prêt à se défendre militairement contre une agression russe par l'arme nucléaire. Elle fait encore beaucoup peur. Changement d'état d'esprit aussi. Il y a le secrétaire général de l'OTAN qui s'appelle Mark Rutte qui a appelé à un état d'esprit de temps de guerre. Ça veut dire retour à la conscription dans certains pays en 2025. Je te nomme les pays actuellement qui ont eu cette façon-là de discuter. Conscription dans plusieurs pays en ce moment. On a réinstauré service militaire obligatoire en France, en Angleterre, en Suède, en Finlande, en Norvège et encore.
Donc, tous des pays européens, tous des pays scandinaves, tous des pays proches de la frontière de la Russie.
Alors, on met en place des plans de mesures d'urgence. On n'est plus juste dans comment est-ce qu'on se protège dans l'éventualité. On est en mesure d'urgence. Personne ne parle de ça ici ou très peu. Le Canada est membre de l'OTAN, vous le savez. Si ça pète de l'autre côté, comment est-ce que nous, on va être impliqués? Hein? Est-ce que notre fidélité et notre façon d'avoir joué avec les États-Unis depuis Mathusalem est encore fiable? Bien, on a des questionnements à se poser avec Donald Trump et sa façon plus économique et non morale d'ajuster les choses. Jusqu'à maintenant, on n'a pas fait grand-chose. Je suis allée retourner dans mes archives, hein, parce que moi, j'aime ça, puis je me fais même des petites affaires comme ça. Juillet 2022, la ministre canadienne de la Défense, qui s'appelait et s'appelle toujours Anita Hannon, a déclaré que le gouvernement fédéral allait investir près de 5 milliards de dollars canadiens au cours des 6 prochaines années pour moderniser NORAD. Ça, c'est l'Organisation conjointe de défense nord-américaine Canada-États-Unis. On a achoppé pour beaucoup, mais on avait une enveloppe budgétaire qui allait dépenser et qui est encore dépensée au cours des 20 prochaines années. L'annonce avait été faite en juillet 2022, donc quelques mois après l'invasion Russie-Ukraine. Déjà, on commençait à se dire « Oh, OK, va falloir travailler en amont le plus possible si on est capable. » On a aussi travaillé très fort et il y a eu certaines annonces qui passent dans le beurre actuellement. Le Canada envoie un message assez clair par rapport au Nord, avec notre Nord fort et libre. Donc, on se réapproprie le Nord. On a énormément de travail à faire là-dessus, mais on va avoir beaucoup d'améliorations, notamment des nouvelles bases, un radar transhorizon, une flotte de nouveaux brise-glace. Ça vous dit quelque chose, ça?
Oui, la Davy, exactement.
Pour patrouiller nos eaux. Il faut savoir que dans le Grand Nord, c'est un peu archaïque. Tu mets un drapeau de conquérant, un autre pays arrive, remet un drapeau de conquérant, puis finalement, le territoire, on ne sait jamais à qui vraiment il appartient. Mais il faut avoir une présence, pas juste avec des Rangers puis qui sont assis sur une roche avec un fusil. C'est une déclaration de souveraineté aussi audacieuse pour le Grand Nord qui va demeurer pleinement canadien le plus possible. Il nous appartient, en plus d'avoir énormément de ressources. Donc, d'avoir un investissement de milliards de dollars pour fortifier les frontières arctiques en ce moment, ça démontre à quel point on prend la chose aussi au sérieux.
Oui, parce que si on trouve que la Russie est loin, elle n'est pas très loin du Grand Nord canadien.
Pas du tout. Puis elle est convoitée, pas juste par la Russie, mais par également la Chine, etc. On possède ici au Canada plusieurs ressources naturelles pour plusieurs économies. Et c'est quoi le mot d'ordre pour la Russie, la Chine, etc.? C'est l'économie.
Oui.
Donc, on devient une cible. On devient aussi une cible parce qu'on s'est allié avec l'Ukraine. Et ça, on est capable de le voir. Tu sais, je veux dire, l'OTAN, l'Ukraine et tout ça, le Canada, on travaille ensemble pour avoir manifestement une priorité sur les valeurs et pas nécessairement juste l'économie.
Tu fais bien de le dire parce que c'est un combat idéologique avant tout qu'un pays comme la Russie décide d'envahir un pays démocratique comme l'Ukraine. Et cela dit, cette démocratie-là a eu certaines ratées et de la corruption, mais ça reste quand même un régime démocratique. C'est une guerre idéologique qui se produit et territoriale, mais très idéologique pour les Européens et le Canada. Moins idéologique maintenant pour les États-Unis. C'est ce qui fait mal, c'est ce qui fait en sorte que c'est chambranlant présentement dans la défense de l'Ukraine.
Puis les États-Unis voient l'économie comme une priorité. Chacun a sa façon de voir les choses. Nous, on voit une priorité dans le fait de ne pas laisser des pays qui n'ont pas la même façon politique de voir les choses, de prendre du terrain et donc de devenir plus fort, parce qu'après ça, on se demande quelle est la limite si déjà t'as pas les valeurs morales et éthiques que nous, on a. Le Canada vient d'acheter des milliers de bombes et de missiles aux États-Unis pour une valeur de presque de 4 milliards de dollars canadiens. Ça parle énormément, parce que nous, on avait un laxisme au niveau de tout ce qui est un petit peu plus perfectionné dans l'armement. On était en manque, puis là, on est allé en acheter au niveau des États-Unis. Ça contribue, veut pas, à améliorer la capacité militaire en étant allié de l'OTAN. Donc, on a amélioré la capacité de défense plus crédible là, au Canada.
Exactement.
Puis on veut peut-être dissuader des pays qui nous voyaient comme pas très forts à chapeauter puis à s'appuyer sur les États-Unis comme étant un petit peu plus, indépendants au niveau de l'armement.
Oui, puis dans la stratégie Mark Carney aussi, on voit qu'il fait beaucoup d'affaires avec les Européens. Il faut augmenter notre capacité militaire.
Oui.
Si à un certain moment, on décide d'aller dans des conflits en Europe et que les États-Unis n'y vont pas.
L'autre recherche que j'ai faite puis que j'ai parfumé ce petit dossier-là, puis là, je ne veux pas faire peur à personne, mais je suis allée voir c'est quoi nos vulnérabilités, nous, au Canada face à la Russie. Principalement, bon, dans l'Arctique, c'est sûr, militaires, ressources, je vous en ai parlé. L'autre, c'est les cyberattaques. Donc, les infrastructures qui sont critiques. Pensez à SAQ Click. Juste au Québec, on a de la misère avec ça. Pensez à la GRC qui s'est vue refuser de continuer d'utiliser certains drones et équipements chinois et même que maintenant, c'est sur des listes proscrites. On n'a plus le droit de faire affaire. Mais combien d'années la GRC a réussi à utiliser le matériel technologique chinois, même aux abords des frontières? Ben, c'est plusieurs. Quels sont les dommages? On n'aura pas tout de suite le mot...
Quelles sont les données qui nous ont été subtilisées? On ne le sait pas.
Pression économique... et ou d'influence, là, qui sont aussi aggravés par les tensions géopolitiques en ce moment suite à l'invasion de l'Ukraine. Le Canada est un fervent soutien là, de l'Ukraine. On est là, on est dans le viseur de Moscou comme étant sur la liste des pays hostiles. On a été noté dans cette liste-là qui appartient à la Russie et qui est potentiellement quand même importante au niveau de l'impact. Si je te parle des menaces géopolitiques puis militaires, ben c'est, comme je te l'ai dit, le Nord canadien, le soutien à l'Ukraine, les menaces cybernétiques qu'on appelle les économiques, ben pour les cyberattaques.
Oui.
On s'entend, là, on est très stratégique au niveau de la Russie à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça ferait si on était visé au niveau d'Internet, de l'énergie, du transport? Il faut promouvoir une vision autoritaire d'Internet ici dans notre pays aussi. Les sanctions, les contre-mesures, les sanctions canadiennes contre la Russie, bien, ça peut avoir des effets réciproques aussi dans le secteur nucléaire. Puis les entreprises canadiennes comme Uranium One, ils ont des liens avec des entités russes. Ça peut-tu jouer sur notre économie? Puis quand on parle de désinformation, puis qu'on chiale sur les médias, il nous faut quand même être très, très, très strict sur la façon dont on est capable d'avoir notre source fiable médiatique, parce qu'on a une vulnérabilité assez potentielle, là, qui est une hypothèse en ce moment, là-dessus, parce qu'il ne va pas falloir avoir de l'ingérence d'ailleurs pour des élections, entre autres.
Exactement, fameuse ingérence au niveau des élections qui se passe avec les médias sociaux, les fameux algorithmes où on est capable d'autres pays de venir faire en sorte que dans mon algorithme, bien, je vais avoir un certain type d'information qui va faire en sorte que je vais être plus attiré à voter pour tel candidat au lieu d'un autre. Et là, ben, c'est ce qui fait en sorte que des pays comme la Russie et la Chine peuvent s'en sortir.
Puis il faut être aux aguets parce que quand on voit une conscription, par exemple, qui est volontaire revenir en France, mais qui est énormément discuté puis qui est encouragé, ben on voit où est-ce qu'on s'en va aussi. Puis il y a des drones qui ont survolé une base de sous-marins nucléaires stratégiques française dernièrement. Donc, on voit que ces gens-là, peut-être la Russie, peut-être la Chine, peut-être les États, cherchent à avoir beaucoup d'informations.
Alors, à suivre, évidemment, c'est il y a des rencontres importantes présentement entre l'Ukraine, entre Moscou, entre les États-Unis pour le plan de paix en Ukraine. Moi, ce qui me rend très perplexe face à ce plan de paix-là, c'est que l'Europe n'est pas impliquée à l'heure actuelle, alors que cette guerre se passe sur le territoire européen. Donc, Donald Trump qui les a pas mal tassés dans un coin et exclus. J'ai bien hâte de voir les ressacs de ce plan de paix-là. Si plan de paix... Il y a Pascal Cévé, c'était très intéressant comme conversation. Merci beaucoup.
J'ai adoré. Plaisir.
J'ai adoré ceci. C'est le retour de Gravel qui suit à l'instant même, 16h30. Manquez pas la chronique avec Francis Gosselin. On va revenir. Il y avait des excellents textes, justement, cette fin de semaine dans le Journal de Québec concernant votre retraite, vos revenus que vous allez avoir à votre retraite. Et puis tout ce qui va s'en suivre, alors ça va être très intéressant.
Vas-tu, petit clin d'œil, on fermait l'émission, on terminait l'émission. Je viens de recevoir un communiqué comme quoi le Canada et l'Union européenne vont approfondir leur collaboration en matière d'intelligence artificielle.
Alors, c'est une bonne nouvelle, honnêtement. Il faut se protéger de plus en plus. Il faut être un maître également de nos centres de données. Le retour de Gravel suit à l'instant même. Nous, on se parle demain à midi, Pascal.
Sans faute.
Yes, salut. Passez une belle après-midi sur les ondes de Boulevard.